It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Salut messieurs, un message pour vous dire que je sors du studio de montage avec Marc et la deuxième partie de l'épisode avec Darren Tulette de Beansport est prête. On y aborde plutôt la question du traitement médiatique du football en Angleterre, de pourquoi ils sont aussi forts, pourquoi ils ont 5 à 10 années d'avance. On a essayé de comprendre ça avec Darren Tulette et voilà, c'est la deuxième partie de l'épisode. J'espère qu'elle vous plaira. À toutes.
Alternative football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative football.
Le podcast hors terrain de SoFoot, présenté par Édouard Cissé et Mathieu Lille-Palette, avec l'appui de la conscience Maxime Marchon.
T'as mis en place le constat, t'as fait le constat, mais et comment tu peux expliquer justement qu'en Angleterre, les consultants, ils ont vraiment une place, c'est-à-dire le présentateur, de temps en temps, il s'efface. Mmh. On assiste parfois à des débats entre trois consultants. Oui. Et t'as l'impression que si tu suis pas le truc, il n'y a pas le présentateur, il est pas là. Il arrive au bout de 2-3 minutes, quand ça chauffe trop, il relance. En France, c'est toujours le présentateur qui est, même si là où je bosse, Prime, ils prennent du recul aussi parce qu'ils essayent de laisser de la place à nous laisser de la place. En France, t'as vraiment l'impression qu'il y a le présentateur et le consultant. Tiens, on te pose une question, tu réponds, mais tu débordes pas trop. Comment ça t'explique ça?
Je pense que avec l'expérience que j'ai maintenant de travailler avec des anciens joueurs. Je pense qu'il y a une grosse différence, c'est que la plupart de ceux que je considère comme des consultants vedettes en Angleterre, c'est des anciens joueurs qui ne cherchent pas à travailler dans des clubs ou à être entraîneurs, qui leur donnent une liberté de parole qui est nécessaire pour faire le job qu'ils font. C'est aussi lié au fait que tu peux être, bon, évidemment, un ancien joueur, un mec qui a pris sa retraite il y a quelques années et qui a été international, déjà, il est à l'abri, donc il a moins besoin d'argent qu'il a 25 ans peut-être. Donc ça joue. Mais aussi, oui, effectivement, d'avoir des anciens joueurs sur un plateau comme aujourd'hui Gary Neville, comme Jamie Carragher, qui travaille pour Sky tous les deux. Carragher, on peut en parler aussi dans l'émission de Kate Abdo avec Thierry Henry et Michael Richards. On en parlera peut-être dans quelques instants. Mais Jamie Carragher, dans un premier temps, il est avec Sky Sports, donc c'est un Liverpool, donc très bon joueur international. Même si il détestait jouer contre Thierry Henry, qui lui a fait des misères dans sa carrière. Mais Jamie Carragher, très intelligent. Gary Neville, Manchester United, très intelligent. Il a essayé d'être entraîneur brièvement, mais maintenant, c'est fini.
Un flop.
Mais tous les deux sont déjà, donc ils ne cherchent pas un job dans le foot. Le job, c'est d'être consultant.
C'est
peut-être une différence. Je pense qu'en France, il y a pas mal de joueurs qui font ça à un moment, ou des anciens coachs, en attendant un job.
Thierry Henry, on l'a vu.
Oui, il y a des gens que j'aime bien aussi, tu vois. Des Gourvenec, aujourd'hui, par exemple, que j'aime bien. Mais s'il revient à la télé, c'est en attendant d'avoir un nouveau job. Donc peut-être qu'il va quand même réfléchir à ce qu'il va, ce qu'il va sentir pouvoir dire. Alors que c'est Neville et Carragher, par exemple, déjà, ils sont hyper bien entourés à Sky, ils mettent des moyens et ils font des émissions hyper tactiques, hyper techniques, vraiment dans une profondeur parce que eux, c'est leur passion aussi.
Oui, mais parce qu'ils
sont
puristes.
Donc il faut avoir des consultants qui sont passionnés par ça. Ça existe en France, mais peut-être qu'ils n'ont pas été habitués à aller si loin et surtout de ne pas avoir, tu vois, cette parler franc. Ces mecs-là, Gary Neville, il va détruire quelqu'un, même de Manchester United, son ancien club. S'il trouve que le club a hyper mal joué ce week-end, mal défendu à plusieurs reprises, il va prendre des images à l'appui et montrer pourquoi Harry Maguire n'a plus le niveau de Manchester United. Et il va le dire comme ça. Et c'est rare qu'en France, tu vois, même dans ceux qui essaient d'avoir un franc-parler, que quelqu'un va dire ce mec-là n'a plus le niveau, tu vois, pour l'équipe nationale. Parce que on va te dire, mais toi, t'es qui déjà? Ou on va te dire, mais ouh, calme-toi, tu vois. Moi, j'aime bien le front parler de
là où je te rejoins, c'était le premier qui était un peu cassant, c'était Dugas. Et voilà, mais parce que lui, il a dit, moi, je veux pas travailler dans un club.
Oui.
Là où je te rejoins aussi, c'est sur en Angleterre. Que ce soit les anciens joueurs, ils gagnent très très bien leur vie, c'est-à-dire autant qu'un peut-être parfois un entraîneur, c'est-à-dire que c'est les gros contrats qu'ils ont, donc ils ont dans leur tête, ils disent bon, si je choisis cette voie, c'est un métier, c'est ma reconversion, c'est ma profession. En France, on n'est pas à plaindre, mais c'est pas les mêmes salaires, tout simplement, ouais. Parce qu'on en reviendra peut-être dans une autre émission. La Ligue 1 et la Première Ligue, le marché c'est pas le même, c'est autre chose. Donc c'est pour ça que la donnée économique, elle est différente. Mais en France, effectivement, là je te rejoins, la plupart, et ça c'est, il faut peut-être le changer, la plupart des gens quand ils nous voient consultants, c'est qu'ils pensent que c'est en attendant d'eux. Une place, un poste en club, pour certains, il y en a qui le font, mais il y en a qui ont vraiment envie, qui sont passionnés de ce qu'ils font. Bon, chez Prime, il y a des mecs, ils sont passionnés de la consultance, du consulting. Ouais. Mais consulting, ouais.
C'est en anglais.
Ouais.
Et par Mathieu qui parle qu'en français.
Non, ils sont vraiment passionnés de ça et ils se disent, oui, moi, ça me plaît. Mm. Transmettre les émotions et tout ça, ça me plaît.
Oui, c'est ce qu'il faut. Mais tu vois, moi, j'aime bien le front parler d'un Samir Nasri, par exemple, ouais. Qui peut-être un jour va vouloir faire autre chose. Mais au moins, dans un premier temps, là, il est là et il est dans le vrai. Quoi. Tu vois, il va dire si quelqu'un est nul, il va dire s'il est déçu par quelque chose. Et c'est ce qu'on veut. Quand on est journaliste, présentateur, on veut des mecs qui s'expriment, qui donnent un point de vue. Si tout le monde est un peu tiède, on va nulle part avec ça. Tu vois. C'est pas pour créer le buzz non plus. Hein. Je ne veux pas dire ça. Mais ce que je demande, moi, à mes consultants, c'est d'être tranchant. D'avoir un point de vue, de ne pas être en train de regarder les matchs avec moi en off et dire « Oh putain, lui, oh là là, qu'il est nul. Ouais. » Alors, comment vous avez trouvé machin ? Oh, écoutez, tu vois, bon, peut-être que en deuxième période, il fera mieux. Non, tu vois, tu venais de dire qu'il était nul. Toi, qu'il joue plus jamais. Non, je sais que c'est pas facile de dire certaines choses, mais effectivement, et tu parles d'argent, c'est triste, mais quelque part, mais c'est une réalité. On est beaucoup mieux joué aussi, mieux payé en Angleterre.
Ouais,
les consultants touchent beaucoup plus, donc ils peuvent avoir un franc parler parce qu'ils disent on est à l'abri. Mais les présentateurs aussi.
Et tu
signes
des contrats sur 3-4 ans et tu sais. Oui, les présentateurs aussi,
je peux vous dire.
Bah, par contre, en préambule, je t'ai dit que c'était Darren, mon mentor un petit peu médiatique dans le secteur du média. Parce que quand je suis arrivé à Bein, il m'a vraiment expliqué la place. Il me dit vas-y, n'hésite pas. Mais t'avais l'intelligence de laisser de la place aussi. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Moi, je travaille avec des gens qui laissent la place, mais parfois, tu sens, j'ai pu parfois travailler sur certaines émissions ou sur certains plateaux, où tu sens que le présentateur, c'est lui la star.
Il lâche pas le crachoir, comme on dit dans...
Et alors, sur le coup, tu dis, mais c'est pas possible, c'est qui? Je suis où? Je fais quoi? On parle de foot, mais donc je suis pas la star. Enfin, c'est pas être la star, mais c'est qui l'élément majeur, tu vois? Et donc, c'est ça qui me choque. Et j'en parle souvent à Thierry. Thierry, c'est vrai que effectivement, tu m'en parlais de lui. Ben, quand il est en UK, il est, il est épanoui, il est top. Après, il me dit, écoute, on peut pas tout le temps le faire. C'est particulier en France, même si à Prime, il nous laisse de la liberté. C'est pas la même chose, parce qu'il y a toute une mentalité. Est-ce qu'il y aura la possibilité en France? Est-ce qu'on sera pas mal perçu? Enfin, tu vois, c'est pas évident.
C'est la question que je me pose. Est-ce que c'est une émission comme ça est possible, outre l'aspect financier? Parce que c'est-à-dire que c'est sûr qu'une émission comme ça d'entertainment autour du sport, il faut voir la place qu'elle a et les salaires qu'ils ont. Les salaires qu'ils ont
sont
liés à l'audience et liés à la place de l'émission. Exact. L'émission, elle est en prime time. C'est peut-être pas sur une chaîne privée où tu as beaucoup moins de téléspectateurs qu'il peut y avoir sur des chaînes privées en France. Mais est-ce qu'une émission comme ça est possible en France, et si oui, dans combien de temps, ou pourquoi c'est impossible d'avoir une émission comme ça? Parce que c'est l'émission dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux à chaque fois, les bons mots, quand Thierry Henry il clash Micah Richards ou Jamie Carragher ou Kate Hebdo.
Oui, non, mais effectivement, cette émission est fascinante. Et Kate Hebdo, c'est quelqu'un que je connais bien. J'ai travaillé avec Kate par le passé et on a un parcours, ouais, on peut dire un petit peu semblable parce qu'elle a travaillé sur Sky en Allemagne, donc elle parle allemand, vous imaginez un peu. Elle parle couramment le français aussi. Mm. Donc heureusement pour moi, elle a un travail en Angleterre.
Très bien payé.
Ouais, parce que putain, sinon elle arrive en France, moi je suis au chômage. Non, mais Kate, elle est géniale, elle peut travailler dans plusieurs langues. Actuellement, en fait, elle est basée à Los Angeles. Elle vient à Londres faire cette émission de CBS. Donc, c'est vrai que c'est une drôle d'histoire parce que c'est pour la télé américaine. La Ligue des Champions, c'est en pleine journée là-bas.
Ouais.
Donc, je ne sais pas si... J'imagine que les audiences là-bas ne sont pas très importantes, mais ça marche à tonnerre. Ouais, écoute, ici en Europe, parce que tous les meilleurs moments sur les réseaux sociaux sont scrutés par tout le monde, et y compris les meilleurs joueurs. Et c'est ça qui me frappe, justement. Et c'est ça, je suis sûr qu'en Angleterre, du côté de Sky ou du côté de... Je ne sais pas quelle chaîne a les droits de la Ligue des Champions pour les années à venir, mais ils doivent être en train de dire, mais c'est ça qu'il nous faut, quoi. Ouais, il nous faut Kate... Et il nous faut cette équipe-là. Parce que tu ne peux pas juste reproduire ça. Tu vois, moi, j'aimerais bien, parce que j'en ai parlé avec Kate sur le comment et tout ça. Et elle m'avait rappelé qu'elle avait vu... elle était venue à Paris me voir quand j'ai travaillé à Bein et quand on avait l'Euro en 2016 en public et tout ça.
Ouais.
Et le temps qu'on a pu avoir, c'était vraiment très sympa à faire. Et j'étais bien entouré par plein de consultants pour ces émissions-là. Et c'était très, dans l'esprit, léger. Tu vois, on s'amusait, on se chambrait. Enfin, eux, ils se chambraient. J'encourageais les mecs de se chambrer pendant l'émission. Et elle avait vraiment aimé ça. Et elle arrive à faire quelque chose comme ça, mais seulement parce qu'elle a le bon casting. Tu ne peux pas faire ça demain. Et je ne vais pas trouver des noms, mais je ne peux pas faire ça demain avec consultant X, consultant Y, consultant Z en France. Parce qu'il faut avoir une énorme personnalité et charisme pour faire ce que font Thierry Henry, Jamie Carragher et Michael Richards. Là, maintenant, tu le vois sur ces clips, que les joueurs sur place, les soirées de Ligue des Champions, les meilleurs joueurs, ils attendent pour être en direct dans l'émission parce qu'ils savent qu'ils vont passer un bon moment.
Ouais, c'est vrai.
Et ils préfèrent. Tu vois, faire ça, bon, c'est dur. Moi, j'ai été partout à tous les niveaux de ces trucs-là. J'ai été le mec qui attendait les joueurs pour faire deux questions après un match de Ligue des Champions quelque part. Tu vois, parfois, j'étais à Lisbonne parce que Benfica, Manchester United, tu vois, on m'envoyait. Génial. Bon, j'ai passé la journée à Benfica. J'adore. J'ai deux questions pour Gary Neville. Gary Neville ne me connaît pas. Il n'a rien à foutre de ma gueule. Il s'est foutu du pantalon que j'avais ce jour-là. Je me souviens très bien. Et puis après, il fait les deux réponses. Mais voilà, il n'y avait aucun intérêt pour l'émission que Gary Lineker, Gary Neville a réagi à ce match-là. Là, le joueur aujourd'hui, il se dit, c'est Thierry Henry en studio. Thierry Henry, c'est un superstar, tu vois, vu d'Angleterre et sur la planète foot. Et Thierry, vous le savez très bien, il a ce charisme, cette façon de faire.
Ouais.
Donc les mecs, ils veulent être dans l'émission. Kate, elle est charmante, elle est rigolote, elle est intelligente, elle connaît le foot. Jamie Carragher et Micah, ils ont leurs personnages qui font que ça marche entre eux. Donc, reproduire, ce serait quand même compliqué. Mais ce qu'ils font est génial, parce que c'est vrai, Kate, elle s'efface presque tout le temps. C'est les joueurs qui font les questions. Tu vois, Thierry, et c'est amusant pour les joueurs. Harry Kane, l'autre fois, Thierry qui dit, Harry,
je veux dire,
t'es bien rouge et blanc, ton maillot là, tu vois, pour référence à Arsenal, Tottenham et tout ça, tu vois. C'est des petits moments comme ça, les joueurs, ils viennent parce qu'ils savent qu'ils vont être taquinés, mais qu'ils peuvent aussi s'exprimer avec ces gens-là. Il y a aussi ce truc entre, tu vois, les joueurs et les journalistes, tu vois. Il y a quelques joueurs qui vont toujours penser, ah, mais ça, c'est une question de journaliste, tu vois, ou il y a encore quelques joueurs qui pensent que le journaliste n'a pas le droit parce que lui, c'est pas ce que c'est. Malheureusement, on se bat encore contre ça. Mais donc, un joueur va accepter beaucoup plus facilement une critique ou une question, hein, même si eux, ils vont pas poser des questions trop, trop difficiles.
Non.
Mais Thierry Henry, Jamie Carragher, ils peuvent poser des questions pointues à un autre joueur parce que c'est différent.
Mmh.
Oui, Thierry Henry, tu vois, tu peux me dire ça parce que tu es Thierry Henry. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qui fait que, voilà, il y a des moments de télé qui sont absolument formidables. Et évidemment, tout le monde aimerait faire un truc pareil, mais c'est compliqué. Si tu n'as pas Thierry Henry sur ton plateau et d'autres mecs complémentaires pour le chambrage entre eux déjà, et mettre cette ambiance-là.
Je comprends, mais au départ, c'était une prise de risque. Hein. Je pense que les gars, Thierry me dit, ouais, chacun a son rôle. Mais au départ, écoute, on est dans des égos, c'est pas évident que ça puisse fonctionner.
Ouais.
Et ça a fonctionné parce que même eux, les consultants, ils ont compris, ils ont pris du plaisir, ils prennent du plaisir. Ils se chambrent, ils ont des super accès. Kate, elle est cool, effectivement, elle a du répondant quand même. Elle s'efface, mais quand elle arrive, elle pique comme il faut. Enfin, c'est top. Et tout le monde prend de plaisir. Et tous les joueurs, enfin, regarde ça. Enfin, même en France, les mecs, ils disent putain, ouais, c'est vrai que c'est top. Et tout le monde a envie de le faire. Après, c'est pas nous, hein, c'est les chaînes. Mais après, les chaînes, c'est effectivement, est-ce qu'il y a les moyens, est-ce qu'il y a la possibilité. C'est la première ligue, c'est regardé partout dans le monde entier. Et nous, la problématique, c'est la Ligue 1. C'est vrai, regardez, ça va intéresser qui, quoi. Et je peux comprendre les patrons de chaîne. Oui, d'accord, c'est sympa, on y a pensé. Hein. Ah, vous êtes les seuls à y avoir pensé. Non, mais ça va intéresser qui? C'est quoi le bénéfice-risque? Enfin, le bénéfice particulier. Bon, bah, c'est ça la problématique. Donc, il faut réformer la Ligue 1.
C'est pas évident, mais effectivement, par rapport aux anciens joueurs, moi, ce que j'ai appris depuis le temps que je travaille avec, pour beaucoup, c'est mes héros, quoi. Je me considère, tu vois, vraiment chanceux. Je suis là, je suis entouré par ces mecs qui ont fait des super carrières. Et j'essaie d'en tirer le meilleur, effectivement, je disais à Edouard quand il a commencé. C'est ce que tu sais, ce que tu as vécu. Nous qui regardons le foot, nous on ne sait pas ce qui se passe dans le vestiaire. Dis-nous, tu vois, qui va dire quoi à la mi-temps de ce match-là après, tu vois, il y a 3-0 là. Comment ça se passe dans un... Nous on ne sait pas dans ces petits trucs-là. Apporte-nous ton expérience, apporte-nous ce que tu sais, mais aussi s'ils vont être bons sur les plateaux, les mecs, il faut que ça les amuse effectivement. Donc eux, Thierry Henry de cette émission-là, ils s'amusent, donc ils sont bons. Mmh. Et mes meilleures expériences à moi, oui, je reviens sur l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018. Quand j'avais des plateaux étoffés avec des vedettes, on avait Christian Vieri, on avait Ruud Gullit, Arsène Wenger, en plus de nos consultants comme Omar et Louis et tout ça. Et ce qui a fait que ces émissions-là sont restées dans nos mémoires, et parce qu'on a des super souvenirs, c'est que je les encourageais donc de se chambrer, mais à la fin, on faisait ce truc tout con, mais le quiz.
Ouais.
Et parce que ce que je constate, et c'est, tous les anciens joueurs sont pareils, évidemment, d'arriver à ce niveau-là, ils sont tous des gagnants. Mmh. Donc, n'importe quel jeu de merde, il faut qu'ils gagnent, ces mecs. Mmh. Donc, c'est terrible. Donc, un quiz tout con à la fin de l'émission, 10 minutes de tu vois, c'était de jeu, quoi, tu vois. Et là, mais je passe des moments formidables. Et quand je revois tout ça, les mecs, c'est la guéguerre. Une fois qu'ils se sont habitués à jouer à ces quiz de fin d'émission, les mecs, ils venaient me voir en cachette, comme ça, en cachette. Donne-moi juste une réponse. Parce qu'ils voulaient, tu vois ce que je veux dire, tout le monde voulait gagner. Ils étaient prêts à me soudouer. Tu vois, allez, dis-moi, non, mais juste, donne-moi juste une. Et à la fin, j'ai ces images de Arsène Wenger, par exemple. Arsène Wenger qui joue au quiz, qui se prend au truc, tout sérieux qu'il est. Et Arsène Wenger qui se tourne vers le public avec Marcel Desailly et je ne sais pas qui d'autre, en train de faire. Et il lance la vague mexicaine dans le public, Arsène Wenger, parce qu'il vient de gagner le quiz. Tu fais n'importe quoi. Mais là, voilà, j'arrive, grâce à ce truc-là, à faire un truc. Tu vois, et les joueurs, ils sont preneurs de ça. Il faut qu'on les amuse aussi, tu vois, pour qu'ils soient bons. Donc Thierry, Jamie et Michael Richards avec Kate, ils s'amusent à travers les matchs et à travers la compagnie et l'ambiance. Et de temps en temps, ouais, il faut aller chercher. Parfois, c'est par hasard. Avec ce quiz, j'avais cette idée pour finir les émissions. Tout le monde n'était pas d'accord. Et finalement, ça a donné des moments formidables pour nous. Mais oui, il faut savoir utiliser les gens à bon escient aussi. Et je pense qu'il y a des anciens joueurs en France, sur les plateaux, parfois. Et tu as raison de souligner que là où tu es en ce moment, je pense que ça travaille bien. Il y a des gens qui s'expriment bien. Chez nous, il y a des mecs qui sont très forts, mais il faut donner une bonne visibilité et possibilité et du temps pour qu'ils s'expriment et pour qu'ils nous apprennent des choses.
C'est le temps, tu vois. C'est vrai qu'au départ, c'est pas évident de se livrer. Ce que tu dis, quand tu me disais au tout début, raconte un petit peu, tu vois, l'expérience dans les vestiaires. Et nous, quand on dit raconte le vestiaire, non, je suis pas balancé. C'est sacré. Il me dit non, mais je veux pas savoir. Mais trouve le moyen de nous raconter des choses sans trop en dire. Enfin, sans trop dire les secrets du vestiaire, tu vois. Et ça, c'était intéressant. Et maintenant, j'arrive plus facilement à raconter des anecdotes sans pour autant, voilà, trop divulguer, tout dévoiler. De toute façon, maintenant, avec les réseaux sociaux, tout est dévoilé. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, trouve la substance. Parce que c'est vrai que ça peut intéresser. C'est pas du voyeurisme, mais l'expérience, tu vois. Comme tu disais, t'es à la mi-temps, après ce match-là, qu'est-ce que le coach peut dire? Pourquoi? Comment il va le dire? Et ça ramène du biscuit, c'est quand même très intéressant. Et ça, du coup, le travail du consultant, c'est pas le même. C'est pas juste, oui, bah là, il va pas être content, l'entraîneur, donc il va pousser une gueulante. Ok, merci.
Ok, tout le monde aurait pu dire ça. Mais tu vois, Robert Pires, qui était une crème, et que tout le monde dans le foot adore Robert, parce que c'est le plus gentil. non, mais tu vois, il est formidable. Comme il était joueur, toujours dans l'altruisme, tu vois, il donnait des ballons, tu vois, bah, il donne à la télé quand j'ai travaillé avec lui. Mais trop gentil. Donc je lui ai dit, mais ok. Je comprends, tu n'es pas, c'est pas dans ta personnalité de casser qui que ce soit. Et je te demande pas d'être méchant, mais il faut que tu nous donnes un petit peu plus, tu vois. Donc va chercher plutôt, si tu ne veux pas dire lui il joue mal. Ok, va chercher, tu vois, des choses que tu as vécues et c'est comme ça que tu peux nous, apporter quelque chose. Si tu me dis, tu vois, Arsène Wenger me disait. Ou parfois à la mi-temps, Patrick Vieira ferait blablabla. Ou Thierry Henry, lui, il aimait faire. Tu vois, tu as Aimé Jacquet disait, mais dis, tu vois, raconte tout ça, tout ce que tu as, tous les joueurs qui ont vécu toutes ces choses-là, ils peuvent, tu vois, trouver un moyen de revenir sur une situation devant aujourd'hui en faisant référence à ce qu'ils ont vécu. Et ça, ça c'est, pour nous, c'est fabuleux, ça, des petites anecdotes qui font que, ah oui, ah bon, il faisait quoi, Paolo Maldini, tu disais, Marcel, tu vois, ouais. C'est comme, ah bon, non mais tu vois,
il faisait ça, waouh, je n'allais pas le dire, oh mince. Non mais après, il y a un autre sujet qui est très important, ce que je dis parfois, ce n'est pas parce qu'on a été un très grand joueur qu'on peut être un grand entraîneur, et tout simplement aussi, on ne peut pas nécessairement être un bon consultant. Tu vois, parfois, c'est expliquer ce que tu fais, expliquer des choses, et parfois, il y a des mecs, des bons joueurs, qui ne savent pas expliquer. Et Zizou, par exemple, il n'aime pas expliquer. Tu vois, pourtant, t'as qu'une envie, hein, c'est d'avoir Zizou en tant que... Mais il dit, bah, écoute, je sais pas, moi je faisais ça, voilà. Bah oui, mais comment tu expliques? Je sais pas. Il a pas envie aussi, tu vois.
Ouais.
Et c'est parfois le problème de certains médias, de dire, lui, il a fait une grande carrière, donc on va le prendre, et ça va être top. C'est pas nécessairement une plus-value, dans le contenu de ce que tu veux. Effectivement, c'est un grand nom, mais dans ce qu'il va raconter, bah non. Soit il a pas envie, et donc dans ce cas-là, force-toi un peu. Ou soit tu sais pas, et dans ce cas-là, soit t'apprends. Mais si t'as ni l'un ni l'autre, bah, tu dis, bon, on va passer à autre chose et on va prendre peut-être un joueur peut-être moins connu, mais qui a quelque chose à raconter, qui va raconter l'expérience.
Il faut vouloir, effectivement. Moi, j'ai la chance de travailler avec plein d'anciens joueurs. Il y en a qui prennent plaisir à regarder un match et commenter comme ça, justement. D'autres qui sont, mais à fond. Donc, je me souviens de Paul Le Guen, par exemple, qui a été excellent comme consultant. Déjà, dans le jeu, il est très intelligent, mais... commentateur et consultant hyper fort, parce que hyper investi, parce que passionné par ça. Il était capable de m'appeler quand j'étais à Canal un mercredi pour dire, est-ce que t'as vu le Barça hier soir? Ouais, enfin non. Mais tu vois, je regardais pas autant de matchs que lui. Il dit, ah, non mais le Barça hier soir, tu vas voir, tu as de quoi noter? Oui, 35e minute, tu vois, côté gauche, ils font blablabla bla, 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 pour se retrouver à 3 contre 2. Ok, je note. Et puis plus tard, 72e, il y a ça qui montre que blablabla. Nous, je vais chercher, je vais préparer les images. Quand il arrive le week-end, il t'explique pourquoi le Barça a pu marquer 2 buts contre Bilbao parce qu'ils ont changé un truc dans le jeu. Et effectivement, parce que voilà, il y en a qui voient des choses que nous, journalistes, ne voient pas, ou que d'autres anciens joueurs ne voient pas. Mais voilà, un mec qui était hyper investi. Donc, c'est pas une histoire de, en Angleterre, c'est mieux ou quoi que ce soit. En France, il y a eu des super consultants, il y en a encore. Il y a eu des super émissions, il y en a encore. Il y a de l'invention aussi, j'espère, encore en France. Je sais que de notre côté, il y a eu au début de la chaîne, eh bien, on a fait pas mal de choses nouvelles. Tu vois, maintenant, on s'habitue très rapidement aussi. Tu vois, le multiplex Ligue des Champions n'existait nulle part en Europe. Tu vois, quand on a commencé à le faire, c'était une nouveauté. Maintenant, ça existe un peu partout et on a pris habitude très rapidement. C'était une nouveauté. Un multiplex Ligue des Champions, génial. Tu vois, but à Madrid, but à Leverkusen, but à Laval. Non, pardon, c'était une autre émission. Non, mais tu vois, il y a de l'invention aussi dans le foot en France. Il y a parfois même des trucs qui existent ici, qui n'existent pas ailleurs. On en parlait juste avant d'enregistrer, mais en France, ce qui m'avait frappé, un des premiers trucs qui m'a frappé, c'est le fait que les mecs, ils peuvent interviewer des joueurs pendant le match. Tu vois, c'est surtout Paga à qui je pense, tu vois, qui va, je sais pas s'il peut encore le faire, mais pendant des années, tu le retrouvais, il était sur le banc avec des remplaçants, en train de discuter tranquille avec les mecs, tu vois, pendant le match.
Pendant le direct.
Et parfois, avec les entraîneurs, pendant le match.
Ouais.
En Angleterre, mon Dieu, tu essaies de faire ça. Ah, mais donc, l'histoire, c'est qu'à Canal, à un moment, il y avait un Lille-Manchester United qui se préparait en Ligue des Champions. Donc, le week-end avant, on m'envoie à Lille parce que Alex Ferguson va venir regarder le match. Et mon job, c'est d'aller m'approcher à lui pour voir si on ne pouvait pas organiser un truc un peu spécial pour ce match-là à Lille contre Manchester United. Donc, on me présente et tout. Évidemment, il ne sait pas qui je suis. Donc, j'ai dit, voilà, je travaille ici, blablabla. Et je dis, mais tu sais, en France, on fait les choses un peu différemment. Et à la mi-temps du match, par exemple, souvent, on a un petit mot avec l'entraîneur. Donc, on se demandait si tu serais d'accord exceptionnellement de dire un petit mot avant d'aller dans le vestiaire ou au retour de vestiaire, juste comme ça, une question si tu veux. Il me regarde tranquille avec son accent de Glasgow et tout ça, tu vois, un peu assez violent, ça peut être. Il me regarde quand même avec l'œil qui brille quand même. Donc, je comprends qu'il ne va pas être méchant, mais je vois que je ne vais pas avoir raison de cette histoire. Et il me regarde et il dit... tu peux essayer de faire ça mercredi si tu veux, mais seulement si tu veux sentir mon poing dans ta gueule. J'ai dit, OK, then, bah, écoutez, c'était très sympa de faire.
Merci à vous.
De passer un moment avec toi. Bon match.
Ah oui, comme donc, quoi, ça se faisait pas. Quoi.
Oui, tu vois, là, c'était, il était hors de question. Il m'a regardé, genre, mais t'es complètement fou. Ouais, tu quoi. Vois, t'es barge. Je dis, mais non, d'accord, on est resté un moment. Je dis, mais ici en France, effectivement, c'est toujours le cas.
Ouais.
Et parfois, c'est compliqué parce que je me souviens, après avoir regardé la première mi-temps de Lille, c'était Lille batté Borisov. À la mi-temps, il y avait 4-0, il me semble, pour le Baté Borisov, 3 ou 4. Et moi, j'avais organisé avec le mec de Lille que j'ai Rudy Garcia en interview juste avant d'aller dans les vestiaires. Putain, ouais, toi, j'ai envie de, tu vois, de disparaître. Je n'avais pas envie de lui poser une question. Qu'est-ce que tu peux faire? T'as 0-3, c'est fucking Baté Borisov en face, tu vois. Et il vient vers moi, il me regarde, genre, moi je regarde, j'ai pas envie d'être là non plus, désolé, tu vois, mais... Donc, non, mais là, il n'y a même pas une question, tu vois, j'ai dit, parce que j'ai dit parfois aux jeunes aussi de parler un peu moins, tu m'as dit tout à fait, tu sais, t'effacer, je prends ça comme un compliment, je me souviens très bien, j'ai juste fait, allô, coach? Non, parce que tu vois, non, mais c'est, le pire, c'est quelqu'un qui dit... Alors, j'imagine que... Tu vois, déjà, j'aime déteste les journalistes qui imaginent des choses. Ce n'est pas ton job, OK? Ton job, c'est de faire parler l'autre en face de toi. Ce que tu imagines ne nous intéresse pas.
Il y avait 3-0.
3-0 à la mi-temps, ouais. J'aurais pu dire, bon, j'imagine Rudy Garcia... ouh là là, une déception, peut-être une frustration, je ne sais pas. Tu vois, il aurait mis son poing dans ma gueule et j'aurais mérité. Donc parfois, c'est peut-être mieux de ne pas pouvoir faire des entretiens à la mi-temps.
Alternative football. Alternative football.
C'était une des questions, mais qui t'a amené à une de nos questions, qui t'a amené à te rappeler qu'en France aussi on fait des choses qu'en Angleterre on fait pas.
Oui.
Mais c'est vrai qu'en Angleterre il y a un media day, donc il y a vraiment un jour où les médias ont accès aux joueurs, et on se demandait si ça c'était possible ou est-ce qu'il y a d'autres choses où la première ligue a compris que c'était important d'être bien avec les journalistes. On a l'impression qu'il y a moins un rapport de force entre les clubs et les journalistes qu'il peut y avoir en France. Est-ce que c'est une fausse idée qu'on a? Ou est-ce que c'est vrai?
Il y a un peu des deux. Là où je suis d'accord, c'est que les clubs anglais, pour la plupart, ont compris qu'il vaut mieux travailler ensemble que d'être dans une truc d'hostilité. Tu vois, alors qu'il y a encore en France pas mal de clubs qui, leur équipe de communication, en fait, devrait être appelée à une équipe de non-communication parce qu'ils ne veulent pas communiquer, parce qu'ils ont tellement peur de je ne sais pas quoi.
Et là, je te coupe 30 secondes. Parce qu'en Angleterre, ils ont compris que le diffuseur, ils donnent beaucoup d'argent. En France, la plupart des gens, je crois, n'ont pas compris, des acteurs du foot, n'ont pas compris que sans l'argent du diffuseur, on plie bagage. Il n'y a plus rien, il n'y a rien. Ce n'est pas avec le prix des abonnements, oui, d'accord, oui, les supporters payent, mais ce n'est pas avec ça. Ou alors, soi-disant, en communiquant avec les réseaux sociaux qui vont se faire les sous-sous que le diffuseur donne.
Oui, donc c'est toute une question de... Non, mais tu as raison, exactement. C'est exactement ce que j'avais souligné. L'importance de comprendre cette relation entre club et diffuseur. Sans cet argent-là, les joueurs n'ont pas les salaires qu'ils ont. Donc, il faut faire comprendre aux joueurs qu'ils ont une responsabilité. J'étais récemment, pour mon podcast, les matchs de ma vie, bien sûr. J'étais récemment avec Francaise à Lens et j'ai passé presque toute une journée là-bas au club et je dois dire que ça m'a fait du bien parce que j'ai vu comment ce club travaille et s'organise. Et ils m'ont expliqué sur place, avec beaucoup d'intelligence justement, qu'en début de saison, eux, ils disent aux joueurs justement ça, que les médias, c'est des partenaires en fait. Et les télés surtout, payent vos salaires. Donc, quand il y a des responsabilités médiatiques, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un genre, oh, je ne sais pas si je veux. Non, en fait, ton job, c'est tu joues au foot 80% du temps, 90%, 95% du
droit
temps.
Droit
et
devoir, droit et devoir.
Mais tu as aussi des responsabilités, pas seulement pour les médias, mais pour les partenaires aussi. Tu vois, aller dans un loge après un match, ça fait partie de ton job. Tu vois, répondre à des entretiens après les matchs, ça fait partie de ton job. Ce n'est pas fini lorsqu'on siffle, que tu l'aimes ou pas. Tu vois, ton salaire, c'est aussi ça. Et donc, les joueurs à Lens, par exemple, si tu ne vas pas à l'entretien après match, il y a une amende pour le club.
Ouais.
Par exemple, le Paris Saint-Germain paye toujours les amendes. À Lens, si le joueur n'y va pas, c'est le joueur qui paye.
Okay.
Ça responsabilise un petit peu. Et si tu expliques et tu éduques tes joueurs, ils vont comprendre mieux. Peut-être qu'en France, c'est plus facile, vous allez me dire, à Lens qu'au Paris Saint-Germain. Mais je peux vous dire qu'à Paris Saint-Germain, on est à beIN Sports, ça fait depuis 2012. J'ai fait un ou deux, peut-être trois petites interviews avec des joueurs de ces derniers temps. J'ai eu Thomas Tuchel pendant 25. On m'avait dit, tu as 20 minutes. Heureusement, j'étais au milieu de mon entretien et j'avais parié sur moi-même, en fait, que Thomas Tuchel allait aimer l'échange et qu'il allait me donner plus de temps. Et ça s'est passé exactement comme ça. Mais le gars de la com était en train de faire les signes, genre, c'est fini après 20 minutes. Alors qu'il, s'il entendait et l'écoutait, il voyait très bien quand t'es au milieu d'une discussion. Tu vois? Mais pour lui, c'était 20 minutes, c'est stop. Tuchel a dit non, c'est bon, tu vois, il en a fait 40. Mais par exemple, Kylian Mbappé, à beIN Sports, zéro entretien. Il est à Paris depuis combien de temps maintenant ? 6 ans ?
2016-17.
On n'a jamais eu un entretien.
17, ouais.
Jamais eu un entretien. Et je sais que les mecs de la com, peut-être qu'ils aimeraient, peut-être qu'ils me disent ça pour me faire taire. Mais
2017, ouais.
Je sais très bien qu'il y a certains joueurs, c'est eux qui décident, quoi. Et ça, c'est pas normal. Parce qu'effectivement, ce qui touche leur argent vient du fait que les matchs sont diffusés sur des chaînes, c'est peut-être pas sur beIN Sports tout le temps, mais sur des chaînes. Donc, tu as des responsabilités, tu vois, c'est pas tout, tu peux pas que prendre, tu dois donner aussi.
Ouais.
Et même si je comprends qu'un Mbappé, comme d'autres joueurs, ça j'entends très bien, hein, qu'ils veulent pas être le visage de n'importe quel produit et tout ça, ça j'entends. Mais une fois que le club a accepté, par exemple, tu vois, il y a des partenaires, ben oui, tu dois aussi, que tu l'aimes ou pas, ça fait partie de ton job, je suis d'accord avec ça. Et donc en Angleterre, peut-être qu'il y a une éducation par rapport à ça qui est différente. En tout cas, récente expérience, il y a 2-3 ans, c'était pendant le Covid, je pense que c'était compliqué pour les diffuseurs. On ne pouvait pas se déplacer pour aller à la rencontre des joueurs. Et donc là, je suis avec Paris. Je n'arrive pas à avoir le moindre joueur de Paris Saint-Germain ou même si de temps en temps, on va me dire « Ah, tu sais quoi, il y a Thomas Meunier ». Ouais. Meunier, c'était justement un bon client pour les médias, ouais. Et un super mec et ouvert. Mmh. Donc, mais sauf que voilà, à un moment donné,
tu l'as fait 5 fois.
On veut pas Thomas Meunier, mec. Tu vois, on veut Di Maria parce que Di Maria allait jouer contre Manchester United. Ouais. Et le mec, il est grassement payé et il fout pas une autre pour les médias. Tu vois, donc à un moment donné, moi, je veux que quelqu'un à Paris va vers Di Maria.
T'as rendez-vous à 15h.
Écoute, mec, tu vas fucking travailler un petit peu en dehors de la pelouse. Tu vois, c'est ton job. Tu vois, pas être dans la peur de...
Ce qui est terrible en plus, Darren, c'est que les joueurs, quand ils vont à l'étranger, ils s'y plient. Hein. Parce qu'on sent bien qu'on n'est pas en position de force. C'est comme ça. Tout le monde le fait.
C'était la deuxième partie, tu vois, de mon histoire, là. C'est que j'ai demandé à avoir Paul Pogba. Il y avait une raison spécifique, je me souviens plus. Manchester United, Covid, tout ça. Donc, ils auraient pu... Oh, c'est compliqué. Et nous, en beIN Sports, on n'est pas diffuseurs de la Premier League non plus, tu vois. Mais il y avait un euro, je ne sais pas quoi, qui est arrivé à la Coupe du Monde. Bref, il y a une raison pour laquelle je veux Paul Pogba. Et à Manchester United, une fois qu'ils ont écouté, ils ont dit « OK ». Ils ont organisé ça à distance. Donc moi, je suis dans un studio à Paris. Paul Pogba est dans un studio, mais pas dans les toilettes, tu vois. Parce que j'ai déjà eu ça aussi, presque, tu vois. « Ah, tu peux faire un entretien et je te retrouve dans un placard, tu vois, 2 mètres carrés. » On fait de la télé, mec. Tu vois, c'est pas la radio. C'est quoi cette histoire ? Bref. Paul Pogba est dans un studio, un beau studio. Il y a 3 caméras,
ouais.
Tu vois. Okay. Et on fait l'entretien. La réception est formidable. Le son est super. Le lighting et tout ça, super. Paul, bon, on se connaît très vaguement, mais voilà, il joue bien. Il joue le jeu. Mmh. Il donne de son temps. Il raconte des histoires. Il est souriant. Et Manchester United envoie les images des 3 caméras pour qu'on puisse monter un sujet sympa. Et je me dis, voilà, ça, c'est un top club au niveau communication. Ils n'ont pas à faire ça, mais ils comprennent que voilà,
c'est important.
C'est beIN Sports, c'est un groupe mondial. De temps en temps, il faut donner aussi. Tu vois, et là, je me suis dit, OK, thank you. Ça, c'est bon, tu vois. Et ça fait du bien parce que, tu vois, ça devrait être comme ça la plupart du temps parce que cette relation doit être donnant-donnant, mais c'est rarement comme ça en France.
Mais ça ne l'est pas depuis que je suis dans les médias. C'est vrai que c'est terrible. L'année dernière, sur La Brèche, sur le documentaire que j'ai fait, c'était des pieds et des mains. Tu posais la question, tu demandais si on pouvait avoir tel ou tel joueur. Et tu sentais que peut-être que parfois même le joueur n'était pas informé qu'on voulait le faire. Ça coupe. Et du coup, tu dis, oh mince, c'est pas possible. C'était tellement dur pour avoir le joueur. Tu dis, mais heureusement qu'on est diffuseur quand même. Si tu l'étais pas, c'est quoi? Comment tu fais?
Ah, mais c'est sûr. Ben non. Non, mais je suis sûr que si demain, je croise Kylian Mbappé, je me souviens quand j'avais fait Thomas Tuchel, après, je traîne un peu en attendant que la voiture vienne nous chercher du parking, et Kylian Mbappé sort et il me fait « Oh, monsieur Darretulet !» Donc, il vient avec son sourire, tu vois. Il a sa personnalité, il est charismatique et tout. Donc, c'est juste 30 secondes comme ça, mais je me dis « Oh, tu vois, ouais, on peut pas aller s'asseoir tous les deux vite fait, tu vois. » Et je suis sûr que si j'ai fait 20 demandes, je suis sûr qu'il n'est pas au courant. Et si je lui disais « Ah, mais depuis le temps, j'aurais aimé... » Peut-être qu'il va dire bah, « Je savais pas, tu vois, j'avais aucune idée. » Mais c'est aussi parce que quelque part... Il a dû dire non tellement de fois à tellement d'autres médias qu'à un moment donné, les mecs, ils disent oh, qu'on ne va même pas demander. Parce que...
Mais tu ne crois pas aussi que c'est parce peut-être aussi...
Il ne joue peut-être pas le jeu.
Je pensais à un truc. Peut-être qu'il y a eu tellement de journalistes mal intentionnés qui ont piégé des joueurs qui font que... Et puis après, ça rejaillit sur tout le monde. Que maintenant, les services communication blindent tout, les joueurs se méfient. C'est peut-être aussi ça aussi. Mais dans notre... quoi qu'il arrive, même si ça a été le cas, il ne faut pas... généralisé sur tous les journalistes.
Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de journalistes qui piègent les joueurs? Moi, je ne suis pas trop...
Je sais pas, c'est une question que je pose.
Moi, j'y crois pas. Hein, j'y crois pas. Je sais que dans la presse tabloïde, évidemment, tu peux faire, et je sais très bien qu'il y a 20 ans, par exemple, Thierry Henry pourrait faire un entretien 4-5 pages dans France Foot, par exemple, et le lendemain, dans The Sun ou The Mirror, ils allaient prendre... une phrase, évidemment, ils allaient sortir ça du contexte et en faire le chou gras. Bon, ça, c'est le jeu, tu vois. C'est malheureux, ça ne devrait pas se passer comme ça, mais ce n'est pas pour une raison de ne plus donner une heure à France Football de temps en temps, tu vois ce que je veux dire. À un moment donné aussi, il faut être un peu moins susceptible, tu vois. Et aussi, au niveau de la com, il faut donner un peu de crédit aux joueurs. Ils ne sont pas cons, ils savent s'exprimer, tu vois. C'est quoi ces trucs oui, tu peux avoir 15 minutes avec Thomas Meunier, mais il faut envoyer les questions d'abord. Pourquoi? Parce qu'il est tellement nul et con qu'il ne peut pas réfléchir avant. Il faut qu'il réfléchisse avant. Responsabiliser un peu les joueurs, les traiter comme des adultes, avoir une conversation. Parce que là aussi, s'il dit quelque chose et on comprend tout de suite que politiquement, il ne fallait pas le dire, on peut discuter, on n'est pas con. On peut dire, OK, ça, ne vous inquiétez pas, on va couper. Mais ce truc-là d'envoyer des questions... mais ça, c'est fatigant de traiter les gens comme des cons. C'est un peu triste quand même.
Est-ce qu'il y a des nouveautés en Angleterre ou des choses que tu as vues? Parce que, alors je ne sais pas si ça vient d'Angleterre, mais le fait que tu sois sur le bord du terrain maintenant, Edouard, pour moi, ça vient d'Angleterre, le fait que le plateau est mis au bord du terrain et que tu as un plateau avec des... C'est peut-être faux, hein, mais est-ce que ça vient d'Angleterre? Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui se passent en Angleterre qui pourraient arriver en France? Et est-ce que tu dirais que les émissions anglaises ont quelques années d'avance, ou c'est juste que le fait que le pays ait une culture foot leur permet de faire des choses qui sont impossibles en France et ils n'ont pas forcément de l'avance? Darren ou Edouard?
Il me semble qu'il a dit Edouard.
Ouais, mais t'as peut-être plus d'expérience. Moi, depuis que je suis chez Prime, avant Prime, j'avais pas de souvenir en France d'avoir des gens bord-terrain sur des matchs de... des plateaux, hein, bord-terrain, sur des matchs de Ligue 1. Donc maintenant, j'en vois de plus en plus dans d'autres chaînes. Voilà, donc je sais pas si tout le monde se copie, mais par exemple, tu vois, tu fais Lorient-Brest, par exemple, à 15h un dimanche, t'as un plateau avec un présentateur, un commentateur, et c'est depuis que je suis sur Prime. Donc le chaque match est couvert comme si c'était une top affiche.
Oui, je sais et que donc, sur Bein, au début, c'était aussi une marque de fabrique. On voulait être sur place.
Ah, vous l'aviez fait aussi, alors.
On a fait beaucoup d'émissions sur place. Moi, je viens d'une culture où les Anglais, pour la plupart, ils avaient des studios dans le stade.
Ouais.
Donc, ce n'était pas bord pelouse. Et moi, j'ai toujours trouvé un peu bord pelouse. Bon, c'est un peu cheap, quoi, tu vois. Parce qu'effectivement, si on le fait, c'est aussi parce que c'est moins cher que d'avoir un studio dans le stade. Ça coûte beaucoup plus cher.
Voilà, il faut de la place. Il faut que le club te fasse de la place. C'est tout ça, mais ce n'est pas le cas.
Il faut que le club veuille bien et que tu payes. Et que, voilà. Donc, c'est moins cher d'être bord pelouse.
Moi, je trouve ça. C'est vrai qu'on n'y pense pas.
Ouais. Je trouve ça moins classe parce que déjà, il suffit qu'il fait trop chaud. Bah, tout le monde est en sueur. Il fait trop froid. Vous n'êtes pas bien. Il y a du vent. Les fiches s'en vont, tu sais plus ce que tu allais dire. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que bon, c'est pas le truc que je préfère. Mais c'est vrai que il y en a de plus en plus. Et même ça, c'est peut-être plutôt en France qu'ailleurs. Parce que quand j'ai commencé à faire les plateaux Ligue des Champions, par exemple, mes années Canal, on était souvent les seuls qui faisaient des plateaux bord terrain pour Canal, ouais, par exemple, okay, tu vois, d'avant match. Et les gens du UEFA nous regardaient les gens comme des ovnis. Pourquoi vous voulez faire ça, tu vois? C'était, oui, parce que c'est parce qu'il faisait froid. Et tout ça. Qu'est-ce que vous foutez là? Vous êtes
Pourquoi vous êtes pas à l'intérieur? Non, mais
j'ai des bons souvenirs. J'ai des bons souvenirs de ça. Je me souviens d'arriver un jour, c'était à Liverpool et un autre à Manchester United. Et on est là 2 heures avant, tu vois, pour faire les. Et y a, dans les stades, 2 ans avant, il n'y a pas un anglais, hein, parce que le pub est ouvert, donc l'anglais n'est pas au stade, tu vois. Mais les supporters adverses, on les oblige, parce qu'on les traite comme des catailles, des animaux, donc on les...
Des bétails, voilà.
Donc on les met, les pauvres, tu vois, on les enferme dans le stade 2 ans avant. Ils sont là comme des cons, ils n'ont rien à faire, il n'y a rien à regarder, rien sur le grand écran. Et donc, parfois, quand, évidemment, si j'étais sur place, c'était parce qu'il y avait un club français qui jouait contre les Anglais. Donc, parfois, on arrivait avec le commentateur, que ce soit Stéphane Guy, Grégoire Margoton, un autre, et avec, parfois avec Marcel Desailly ou un autre. Et donc, nous, pendant quelques minutes, nous trois, on était le spectacle. Les supporters français, ils voyaient quand même, tu vois, donc ils criaient, tu vois. Et tu vois, j'ai eu... À un moment donné, c'est un stupide comme souvenir, mais je pense que c'était à Old Trafford où les supporters se font « Darren !» Donc j'ai quand même une cop qui chante, tu vois.
À Old Trafford.
Old Trafford, formidable, quand même. Hein.
Bravo.
C'est pas tout le monde. Non, c'était rigolo et c'était effectivement ce souhait d'être présent et montrer qu'on est là qu'avaient les chaînes françaises et ça continue aujourd'hui avec Prime, avec Bein Sport, on est souvent effectivement bord pelouse, histoire de montrer qu'on est là au plus près de l'action comme on dit, parce qu'effectivement aujourd'hui il y a pas mal de questions qui se posent, tu vois, comment on consomme les matchs aujourd'hui est une vraie casse-tête pour les télés. Évidemment les habitudes changent. Il y a 30 ans, il y avait 2 matchs par semaine. Tu vois, il y a 20 ans, il y avait 4 matchs par semaine. Maintenant, il y a des matchs non-stop. Tu peux regarder presque tous les matchs de tous les championnats européens. Donc, il faut que tu fasses des choix en tant que consommateur. Et en tant que télé, tu te dis, OK, bah, dans le passé, on faisait 1 heure avant match, parfois 2 heures ouais, chez nous, Bein Sport. Au début, on ouvre le robinet, on est là, tu vois. Il est 19h, coup d'envoi dans 2 heures seulement. Hein, quoi? Comment on remplit tout ce temps? Bon, bref, on est là, on montre qu'on est là, tu vois. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'avec le choix qu'a le téléspectateur, avec les réseaux sociaux, avec tous les autres sports, évidemment, parce qu'il n'y a pas que le foot, et ben nous, on voit, hein, les chiffres, de moins en moins, les gens viennent tôt. Et de plus en plus, ils allument le télé ou ils zappent pour le coup d'envoi. Donc, tu vois, ça fait poser pas mal de questions. Comment on doit traiter les matchs aujourd'hui? Est-ce que c'est juste un robinet, tu ouvres, tu vois, et c'est des matchs, tu vois? Ou est-ce qu'il y a encore la place pour avoir des plateaux autour et du bord pelouse et des consultants? Ou est-ce que ça sert, à qui ça sert aujourd'hui? Qui veut ça? Et s'ils ne veulent pas ça, qu'est-ce qu'ils veulent? Si vous avez les réponses, s'il vous plaît, vous m'écrivez à Darren Tulette, Bein Sport, 53 avenue Émile Zola, Boulogne-Billancourt. Merci.
J'ai appris un truc grâce à...
Vous voyez ce que je veux dire quand même?
Mais bah carrément. Ouais.
Hein, tout change.
Ça, c'est sûr, ouais. Mais du coup, je ne vais pas te demander tout ce qui a changé depuis que tu es arrivé en France et depuis que tu as commencé, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de choses. Mais en préparant cette émission, Mathieu, qui n'est pas là et qui co-présente cette émission, m'a appris que tous les matchs ne sont pas télévisés en Angleterre pour pousser à la fréquentation des stades, mais aussi des pubs. Est-ce qu'un tel système serait possible en France, selon toi?
Vous avez envie de pousser les gens dans les pubs en France aussi? Je ne sais pas, mais en Angleterre, l'histoire est assez amusante parce que dans un premier temps, et ça a souvent été le cas, quand on a commencé à montrer des matchs de foot à la télé, il y a eu une peur bleue des présidents de tous les clubs qui nous disent « Mais attends, si tu fais un match en direct le samedi après-midi, tous les autres stades vont être vides. Les gens, ils ne vont pas venir. » C'était ça dans un premier temps. Donc, on fait un match par semaine. Et puis, petit à petit, évidemment, on s'est rendu compte que tous les présidents avaient tort. Ça ne changeait rien, en fait. Tu vois, et tu peux diffuser des matchs, les autres stades sont toujours pleins. Et en fait, plus tu diffuses des matchs, plus tu donnes envie aux gens d'aller être dans le stade où le match est diffusé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas eu cet effet-là néfaste de la diffusion des matchs. Jusqu'à là, les matchs de 15 heures en Premier League, 16 heures donc en France, ont toujours été protégés, effectivement. Donc, on s'est retrouvé dans une situation assez ubuesque où un Anglais peut venir en France pour regarder un match de Premier League à 16 heures à la télé, tu vois, sur Canal.
D'accord, qui n'est pas transmis.
Mais il n'est pas transmis en Angleterre, tu vois.
Ah ouais, d'accord.
Donc tu peux prendre un Eurostar pour regarder, tu vois.
Brighton
contre Liverpool à 16h. Parce qu'il n'est pas diffusé en Angleterre, tu vois. Ah oui. Et si tu ne peux pas avoir un billet de match, bah, tu viens en France pour le regarder ou dans un autre pays. Donc ça a fait débat récemment. Et dans le prochain cycle de droit, ils ne vont quand même pas diffuser tous les matchs, mais ils vont augmenter le nombre de matchs diffusés. Parce que ça a commencé à râler les gens qui payent plusieurs abonnements comme en France. Ils disent, attends, on s'abonne à X, à droite, et à gauche.
Comment ils font alors?
Et on n'a toujours pas tous les matchs, bordel.
Et donc l'anglais, comment il fait alors? Combien il y a de matchs qui sont télévisés, enfin qui sont retransmis par
semaine? Pour l'instant, tous les matchs sont encore à 15h en Angleterre, ne sont pas diffusés en direct à la télé. Ah, il n'y a que, entre guillemets, tous les matchs qui sont... excentré, tu vois, les matchs avancés, les matchs en retard, tout ça, c'est en direct. Mais les matchs de 16h jusqu'à là n'ont pas été diffusés en direct.
Ah oui.
Ah oui.
Il m'a appris ça, Mathieu.
Mm-hmm. Mais c'est Mathieu, bravo.
Mathieu Lille-Palette.
Mais bon, c'est Mathieu. Oui, c'est bien de préciser ouais. Lille-Palette parce que bon.
Il y a plein de Mathieu.
C'est vrai. Mais non, bluffant.
Et du coup, dernière question, puisqu'on va devoir libérer ce petit studio, sur quels aspects la Ligue 1 devrait s'intéresser de plus près à la Première Ligue selon toi? En quoi elle pourrait s'améliorer et des choses qui sont transposables, parce que tout n'est pas transposable dans le championnat français, selon la culture française du foot aussi.
Ouais, voilà, on a parlé
et le marché aussi.
De cette différence culturelle, le marché qui n'est pas de la même taille. Je pense que les clubs français, il y en a qui le font très bien. J'ai parlé de Lens tout à l'heure. Je pense que Lens n'est pas le seul à bien travailler avec les médias, en toute intelligence, en essayant de faire des choses en harmonie avec les uns avec les autres. Un autre exemple de Lens, c'est l'intelligence et être à l'écoute des médias. Ils ont commencé par, comme beaucoup, de diffuser leur conférence de presse du coach ou des joueurs dans la semaine sur le site web du club. Parce que pourquoi pas, on a un site web, on va le mettre. Et puis les médias locaux ont dit, mais les gars, si vous faites ça, nous, nos papiers pour le lendemain, ils sont caducs. Tu vois, on a rien à dire parce que tout a déjà été dévoilé. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une solution? Et donc, c'était un vrai souci pour les journalistes du coin. La Voix du Nord, par exemple, le gars qui a couvert Lens. Qu'est-ce qu'il écrit le lendemain? Et donc, là aussi, ça c'est bien, c'est un petit exemple, mais les clubs doivent travailler en harmonie avec les médias pour un meilleur rendu pour tout le monde qui suit les clubs. Donc, Lens, par exemple, ils font... allez, la conférence de presse commence, c'est la partie filmée. Ils font une pause, ils stoppent, la caméra s'éteint. Et puis, il y a d'autres questions derrière.
Ouais.
Donc, au moins, comme ça, gars, il peut se dire, bon, moi, je vais faire un ongle sur joueur X ou tactique Y et je peux avoir un papier demain qui n'a pas, qui n'a pas déjà été diffusé sur le site. Donc, c'est des petits exemples, mais je pense que les Anglais, je le disais avec l'exemple de Paul Pogba et Manchester United à l'époque, ils savent ouvrir les portes quand il faut pour aider les médias à avoir des jolis contenus. Et ça, c'est très important et j'aimerais bien que tous les clubs en France comprennent ça. Et il faut aussi qu'ils se disent, c'est quand même dingue parce que la moitié des clubs français aujourd'hui, ils ont mis un ancien journaliste à la com.
Ouais.
Donc, c'est quand même, je trouve toujours ça bizarre que l'ancien journaliste qui avait besoin d'accès, bah, il ferme l'accès aux autres. Et je dis, les mecs, franchement. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu fermes un petit peu l'accès aux joueurs et tout ça? Il y a un vide. Quand tu crées un vide, bah, les médias ils doivent remplir ce vide. Donc, si tu ne donnes rien, et bah, c'est là où tu commences à voir les problèmes, justement. C'est l'inverse de ce qu'ils pensent parfois à la com. Si tu ne donnes rien, eh bien, ils vont quand même devoir
imaginer,
inventer des histoires et des débats. Ouais. Et, non, mais c'est ça. Ouais. Et d'être dans la supposition tout le temps.
Dans l'opinion.
Alors que si tu dis, allez, c'est peut-être pas possible tous les jours, mais si tu fais un maximum d'ouverture et dis, OK, ce joueur-là, vous avez une demi-heure, tu vois, venez. Tu vois, si tu as besoin, toi, de trois questions différentes parce que tu vas faire un papier pour je ne sais pas quel... OK, et on t'aide à faire un truc de temps en temps. Tu vois, mais ça tourne avec les joueurs dans l'effectif. Putain, il y a quand même une trentaine de joueurs aujourd'hui. Il y a aussi des mecs intéressants dans les staffs aussi, tu vois. Il y a des histoires à raconter. Il y a du contenu, comme on dit, c'est le mot-clé aujourd'hui. Ouais. Il y a du contenu partout. Donc, si le club est intelligent, tu donnes un peu et comme ça toi tu as ton papier, tu fais ton papier, t'as pas à dire bon j'ai rien sous la main donc et ben qu'est-ce qui se dit dans le vestiaire apparemment blablabla n'est pas content avec blablabla, bah tu as ton sujet plutôt quoi, parce que le gars il est venu vers toi et là tu vas pouvoir raconter quelque chose, donc il faut donner. Tu vois, donner, c'est quoi? C'est une chanson, non?
Gimme.
Donner. Je vous le rendra. Oui, c'est toi, oui, c'est vrai, c'est... Bah écoute,
merci Darren pour tout ton temps, tes anecdotes, ton
my pleasure.
Darren, est-ce qu'on a répondu à la... Je pense on a dû répondre à la question. Il y a tellement
de choses. Il y a encore plein d'autres questions qui auraient pu être posées, mais
il fallait 2-3 heures de plus.
Il fallait. On a que demi-temps dans un match.
On a que deux périodes. On a fait un beau match.
Et du coup, Darren, on peut te retrouver en podcast.
Les matchs de ma vie sur toutes les plateformes où se trouvent des bons podcasts, effectivement.
Ok, très bien.
Et dans les jours à venir, peut-être...
Une surprise,
un certain monsieur Cissé.
Un certain monsieur Cissé.
Ah, Djibril.
Ah, merde, il te l'a dit.
Ah, salaud. Merci Darren, à vite. J'embrasse.
Merci beaucoup les
ciao,
amis.
Ciao, ciao.
Alternative Football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Crois-moi, ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative Football.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.